sais qu'à cette période, en fait, beaucoup d'entre nous sont avides d'avoir des réponses à leurs questions. L'actualité va vite, mais pas si vite que ça. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis un casque exprès, comme ça je suis à peu près assuré la qualité du son. Donc, salut Dontrec, salut la côte, bisous de Lyon, merci. Bonjour Madelard 57. Donc, c'est juste, dites-moi si vous m'entendez bien. En tout cas, je sais sur Instagram, ça marche très bien. Des fois sur YouTube et sur Facebook, c'est un peu plus compliqué. Donc, merci de me rassurer. Salut depuis le Mexique de Gilles-Louis, Juan Luis Huerta. Salut Juan Luis. Bonjour Céline, bonjour Anthony, bonjour Agé. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'essaye de multiplier au maximum ces lives pour vous donner le plus de renseignements possible, d'autant que je suis particulièrement informé du fait de mes différentes positions, à la fois dans les médias, à la fois à l'hôpital, à la fois par mes connexions avec les pouvoirs publics. Les thèmes, d'abord, je voudrais vous remercier à tous et à toutes. Vous êtes très, très nombreux à m'avoir envoyé des messages d'encouragement et je les partage avec tous les autres. Nous sommes très, très, très nombreux. La chaîne de gens qui s'occupent à l'heure actuelle de notre population, en fait, elle est extrêmement grande, ne serait-ce qu'à l'hôpital, bien sûr. On a les médecins, évidemment, mais on a tous ceux qui sont des paramédicaux, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignantes. On a beaucoup d'élèves infirmières et d'élèves aides-soignants maintenant. On a les secrétariats qui ne sont pas complètement inutiles. On a beaucoup de mes collègues qui sont venus en renfort pour donner des nouvelles des familles. On a également les brancardiers, tous ceux qui font l'assistance dans les urgences. On a également, alors ce qui est très, très amusant, c'est comment l'amour passe par la nourriture. Alors apparemment, dans la quasi-totalité des hôpitaux, j'ai vu à Ambroise-Paris et je vois à Pompidou, des livraisons permanentes de gâteaux, de nourriture, de plats, etc. Donc merci de faire grossir les soignants. Parce que je passe une partie de ma journée en général à leur expliquer, à répondre à toutes les questions de nutrition de tout le personnel qui est autour de moi, donc, puisque je suis assez identifié. Donc ça me fait rigoler. Mais merci aussi aux forces de police, aux pompiers, etc. Et puis, je pense à ceux dont on ne parle jamais, c'est-à-dire pas souvent en tout cas, les livreurs, les caissières de supermarchés, les manutentionnaires. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment une chaîne de solidarité. Elle est gâchée de temps en temps par quelques personnes qui ont mauvais esprit. J'en classerai deux types. Les gens qui sont extrêmement égoïstes. Hier, par exemple, j'ai accompagné mon épouse au supermarché pour faire quelques courses. On n'a pas de grand stock à la maison, donc il a fallu qu'on aille faire quelques courses. Je suis arrivé à l'entrée, il y avait une queue de 4-5 personnes devant le supermarché et j'avais mon petit papier de soignant, donc il me permet en général de rentrer, faire les courses et de me barrer. Et là, il y a quelqu'un qui m'a agressé littéralement en me disant « Mais pourquoi vous ne faites pas la queue ?» Donc, j'ai sorti mon papier. Et alors, nous aussi, on a besoin de manger. J'ai trouvé ça pathétique. J'avais envie de lui dire « Chérie, si jamais tu viens à l'hôpital, montre-moi un papier parce que sinon, je te laisserai faire la queue pendant longtemps. » Donc, voilà. Bon, quelques réactions égoïstes. D'autres réactions qui m'agacent aussi. J'en profite pour vous faire l'alerte de ça. Beaucoup, beaucoup d'escrocs en ce moment. Alors, beaucoup d'escrocs sur le web, des gens qui vous vendent n'importe quoi. Des faux masques, des faux médicaments, n'achetez surtout pas de l'hydroxychloroquine sur le web. Ils vous vendent soit des pastilles de sucre, soit des choses plus graves ou plus périmées. Donc, n'achetez rien sur le web à l'heure actuelle. Les vendeurs de compléments alimentaires qui vous vendent des tisanes, des produits ceci, des produits cela. Donc, gaffe à ça aussi. Ne plongez pas là-dedans. On est dans une période très spéciale. Donc, il y a beaucoup d'arnaques qui circulent. J'en profite pour donc dire que les gens qui appellent sous mon nom, en dehors de la box minceur, qui comprend les polyvitamines, la mélatonine et les probiotiques, je ne vends rien d'autre. Donc, je ne m'occupe pas du reste, donc méfiez-vous de ça. Merci de me rapporter en permanence les appels que vous recevez et essayez de me saisir les numéros de téléphone. Je réglerai mes comptes un petit peu plus tard quand j'aurai plus de temps. Faites très attention à ça, ne vous laissez pas abuser. Cette semaine, la problématique la plus importante, il y a deux problématiques qui sont arrivées, trois pardon. Première problématique, c'est toujours l'histoire des masques. Faut-il ou non en porter ? Alors clairement, le masque chirurgical est un barrage. Ça veut dire que c'est vrai qu'en pratique, si on portait tous des masques, ça permettrait que le confinement se passe mieux. Pourquoi ? Simplement parce que le masque est une barrière. On a une barrière de protection d'un mètre ou d'un mètre cinquante, mais le masque en lui-même est une barrière. Mais le masque ne protège pas de tout. Ça veut dire que ce masque, il ne protège pas du fait que vous pouvez très bien recevoir quelque chose sur le bout de votre visage, ensuite passer le doigt dessus, mettre le nez à la bouche et ça reviendra au même. Donc, le masque est une précaution supplémentaire, mais ce n'est pas la précaution parfaite. La précaution parfaite, ça reste vraiment la distanciation. Ça veut dire se mettre à distance des gens parce que là, à l'heure actuelle aussi, un Américain a été dire que le virus circulait dans l'air. En fait, il n'a pas dit que le virus vole dans l'air. Hein. Il n'a pas dit que le virus il circule dans l'air ambiant. Il a simplement voulu dire que le virus se transmet, il reste dans l'air quand il y a un contact parlé entre deux personnes. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire que en fait, même quand vous parlez à quelqu'un, même si vous avez si vous n'avez pas de masque, il y a quand même des postillons tout le temps. Ça veut dire, et donc, il est possible qu'à un moment donné, vous receviez un postillon de quelqu'un qui a parlé à côté de vous. C'est en ça peut-être que le masque serait utile. Mais quand on garde la barrière de protection, c'est exactement la même chose. Le masque, c'est une barrière entre votre bouche et donc vos voies aériennes et l'extérieur, donc la possibilité de recevoir du virus. Deuxièmement, pour être contaminé, il faut qu'il y ait une certaine quantité de virus. Ça veut dire que ça ne peut pas être juste un virus qui se promène, qui vous contamine, ça ne suffira pas. Votre système immunitaire sera assez suffisamment efficace pour vous protéger. En fait, ce qu'on redoute, c'est quand il y a justement, on a parlé des toux et des éternuements, parce qu'au moment des toux et des éternuements, il y a une grande nébulisation de virus qui va passer autour de vous, et donc il y a des chances que vous en attrapiez beaucoup. Mais quand c'est un seul virus, je prends cet exemple un peu caricatural, effectivement, il n'y a pas de contamination assurée. Donc, effectivement, par la parole, à distance, il pourrait très bien y avoir une contamination. C'est vrai que si toute la population était équipée de masques, et je viens de voir aux actualités qu'en Espagne ou en Italie, je ne sais plus, désormais, les gens n'auront plus le droit de ne sortir qu'avec un masque, c'est vrai que ça contribuera à augmenter cette capacité à lutter contre ce virus. Et voilà. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est d'une façon plus générale sur cette épidémie n'est pas la dernière ni la première. Il y a eu plusieurs épidémies de ce style. Vous êtes passé à côté du SRAS, je pense, pour la plupart de la population, qui était le syndrome respiratoire aigu. Ça veut dire le syndrome de détresse respiratoire aigu. En fait, à ce moment-là, le virus venait de Chine, mais il restait relativement confiné à la Chine. Donc, il y a eu très, très peu de cas à l'étranger. Mais ça a existé. C'est ce qui explique que les Chinois ont une grande habitude de gestion de ce problème. Donc, les coronavirus, on le sait, il y en a beaucoup en circulation. Beaucoup, beaucoup. Donc, ce n'est pas la dernière épidémie. On est en train d'apprendre quelque chose. C'est à gérer une épidémie. Concernant les nouveautés, vous avez peut-être entendu parler des transfusions de plasma. Je crois que je vous en avais parlé déjà la semaine dernière. C'est une expérience qui est faite à l'heure actuelle, qui consiste à transférer le plasma d'un individu ou des extraits de ce plasma d'un individu qui a été immunisé dans le sang de quelqu'un qui est contaminé pour casser le virus en quelque sorte. Alors, c'est au stade expérimental, on n'est pas du tout assuré que ça marche, mais ça pourrait marcher. Le vrai doute là-dessus, c'est est-ce que les anticorps de quelqu'un qu'on a récupéré dans son plasma sont susceptibles de se multiplier dans le sang de quelqu'un d'autre. On aura la réponse dans quelques temps. Sinon, les essais se continuent. Pour l'instant, il n'y a pas d'essai qui se révèle convaincant. Ça veut dire, je suis au courant des quatre bras qui sont à l'heure actuelle testés dans les différents hôpitaux. On n'a pas le sentiment qu'il y en ait un qui domine par rapport aux autres. Alors, peut-être qu'il faudra faire des associations. Dès qu'on a l'étude statistique qui est finie, on pourra peut-être envisager quelque chose, mais il n'y a pas un médicament à l'heure actuelle qui ait révélé sa supériorité par rapport aux autres. Et je parle, par exemple, pour l'hydroxychloroquine. Je voudrais souligner juste quelque chose. Quand on a vu les expériences de Didier Raoult, Didier a dit, si je l'appelle Didier, c'est parce que je le connais, bon, et Didier a dit l'association hydroxychloroquine et érythromycine, donc azithromycine, c'est-à-dire le Zithromax. En fait, quand il dit ça, il aurait fallu préciser que l'azithromycine n'a pas un rôle neutre. L'azithromycine est considérée comme un antibiotique à très bonne efficacité pulmonaire, mais l'azithromycine semble avoir effectivement aussi une activité antivirale. Donc, ça veut dire que peut-être que l'azithromycine tout seul, c'est-à-dire le Zithromax, aurait une utilité à la fois pour lutter contre l'infection et la surinfection. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle en réanimation, c'est-à-dire que Après, je vous explique comment ça se passe en réanimation, comme ça vous comprendrez tout. Donc, vous allez voir, c'est un peu plus raffiné que ce que vous entendez dans les médias. L'azithromycine aurait peut-être aussi un effet positif, et il y a un médecin à Paris qui s'est proposé de faire un essai exclusif avec l'azithromycine pour voir si ça suffirait pas, en tout cas à amener les patients jusqu'à un stade tel qu'ils puissent se défendre eux-mêmes contre le virus. Donc, à voir. Pour le moment, il est certain que le confinement commence à donner des effets. Ça veut dire qu'en fait, en restant chez soi, on ne contamine pas les autres. Et qu'en restant chez soi, si on est contaminé, on a plus de chances d'être amené à l'isolement dans un hôpital et être soigné. À l'hôpital, comment ça se passe? Le circuit habituel, c'est l'arrivée avec une première sélection. Il y a quelqu'un qui demande aux gens pourquoi ils sont venus. Quand il y a des suspicions de COVID-19, ils passent directement dans l'aile COVID qui a été installée dans tous les hôpitaux. Enfin, en tout cas, à Pompidou, c'est comme ça, mais dans tous les hôpitaux, c'est comme ça. Dans cette aile COVID, il y a quelqu'un qui est chargé de faire le diagnostic. Un, c'est sûr. Alors, on ne fait pas toujours le test, mais des fois, c'est certain parce qu'on a l'ensemble des symptômes qui arrivent. Et dans ce cas-là, on vérifie immédiatement la saturation de la personne. Je ne sais pas si je vous ai montré le petit oxymètre, comment ça marchait. Je peux aller le chercher pour vous le montrer si vous êtes patient. Et puis, on fait une oxymétrie tout de suite. Je vais aller le chercher pour vous montrer. Parce que
vous parliez de vous-même de ce service, hein, je vous interromps.
Voilà, je suis là. Donc, l'oxymètre, ça se présente comme ça. C'est un petit appareil. Vous pouvez le trouver en pharmacie ou vous pouvez l'acheter même sur Amazon. Hein. Bon, moi, j'en ai un parce que on me l'a donné. On met son doigt à l'intérieur. Il y a une espèce de petite flash de code infrarouge, vous voyez. Et puis, on va mesurer la saturation en oxygène de quelqu'un et on va regarder quelle est sa saturation en oxygène. Et là, en l'occurrence, je suis à 96, c'est-à-dire que je suis au-dessus des 95. On est en fin de journée. Et comme je suis à 96 et que j'ai un pouls qui est à 85, voilà, tout va bien. Donc, je suis saturé en oxygène et ça marche bien. Si, une fois arrivé en réa, une fois arrivé à l'hôpital, on mesure donc la saturation en oxygène. Si cette saturation en oxygène, elle est entre 95 et 100, on laisse les gens rentrer chez eux, ça veut dire qu'il y a un syndrome de détresse respiratoire. Si leur saturation en oxygène est en dessous, est entre 92 et 95, on les met dans un lit en médecine et on leur met un peu d'oxygène, soit par des lunettes, soit par un masque. Et si leur saturation d'oxygène descend en dessous de 92, on teste d'abord le masque. Si ça marche, on les garde toujours en chambre sous oxygène et on surveille régulièrement. Et si à un moment donné, ça descend encore et que ça dessure, là, on les passe en réanimation. Et en réanimation, qu'est-ce qu'on fait? On va les intuber, on va passer un tuyau dans la gorge qui va descendre le plus bas possible vers les poumons et on va envoyer l'oxygène de façon beaucoup plus efficace. Là, on va envoyer 15 à 20 litres d'oxygène par minute, donc ce qui est énorme. Par heure, pardon, je sais plus, j'ai l'habitude de régler 15-20 litres, mais je crois que c'est par heure. Là, on les sature, on les sursature en oxygène. Ce qui va se passer en réanimation, c'est qu'en fait, on va envoyer de l'oxygène jusqu'à temps que leur poumon récupère parce qu'il est très inflammé. Et si le poumon récupère, on va se rendre compte progressivement en faisant un scanner, en regardant la saturation en oxygène quand on dérange de temps en temps comment ça fonctionne. Et si ça commence à fonctionner normalement, on les réveille et on les refait passer en salle. Pourquoi on les curarise? Alors, on les curarise, on utilise le curare, on n'est pas des Indiens, mais on utilise le curare pour paralyser les muscles de telle façon à ce que l'individu ne lutte pas contre la machine. Alors, quand ils sont pas suffisamment curarisés, le réflexe est de retrouver une respiration naturelle et ils vont lutter contre la machine. Et là, ils créent une respiration paradoxale. On a deux techniques pour améliorer les choses. Soit on augmente le curare, mais si on est en dose maximum, on peut pas augmenter. Soit on pousse sur la machine et on fait ventiler à toute allure pour fatiguer le muscle. Et au bout d'un moment, c'est la machine qui gagne et donc la personne va respirer correctement. En réanimation, le plus gros risque, c'est deux risques. C'est le risque d'œdème pulmonaire. Il est relativement bien contrôlé. Il suffit de regarder la volumétrie. Donc, ça veut dire combien il y a de liquide dans le sang. On a des paramètres pour le surveiller. Mais le plus gros risque, c'est la surinfection. Ça veut dire que pendant qu'ils sont en réanimation, ils sont beaucoup plus fragiles et ils peuvent se surinfecter, d'où la raison pour laquelle on les perfuse en antibiotiques et en antiviral. Les médicaments qui, entre guillemets, manquent à l'heure actuelle, c'est, il pourrait manquer du curare, il pourrait manquer des hypnotiques, les hypnotiques, c'est les médicaments pour endormir les gens. Et il pourrait manquer également de morphine, c'est des antidouleurs pour faire en sorte que les gens ne souffrent pas, car même inconscient et même intubé, ils peuvent souffrir. Il y a même un médecin de l'hôpital qui nous a expliqué la dernière fois que comme il était en panne de momentanée, hein, il attendait la livraison de la pharmacie centrale, comme il était en panne d'hypnotique, à un moment donné, il a utilisé du GHB. Le GHB, vous savez, c'est la drogue qu'on dit être la drogue des violeurs. Et cette drogue, ben, il s'en est servi simplement pour anesthésier, pour empêcher la mémorisation de la personne et en même temps l'endormir. C'était astucieux de sa part. En fait, il y a plein de gens à l'heure actuelle à l'hôpital qui ont plein d'idées très, très marrantes, en tout cas des idées très originales qui permettent de se sortir de la plupart des situations. Et bravo à tous ces gens parce que franchement, c'est pas une partie de plaisir. Sur le plan de l'évolution, vous devez regarder les chiffres assez régulièrement. Ça donne le sentiment d'une, en Île-de-France, d'une légère amélioration. Il faut être extrêmement méfiant. L'amélioration peut résulter de plusieurs choses, soit du fait qu'on est à un stade où il y a de nouveaux contaminés qui ne sont pas encore suffisamment contaminés pour arriver, soit parce qu'il y a pour le moment un pic de saturation dans certains hôpitaux et qu'il y a des gens qui ne sont pas en réanimation pour le moment. Donc, il faut être extrêmement prudent. Le problème qui se pose, ça va être vraiment le problème du déconfinement. Comment faire? Je crois savoir par mes différentes relations que ce déconfinement ne sera que progressif et localisé, c'est-à-dire qu'il y aura des clusters qui sont libérés. Les clusters, c'est des zones où on a quasiment empêché les gens de sortir. Eh bien, dans certaines zones où ça se passe mieux, on commencera à libérer progressivement cette zone, à condition qu'on puisse disposer des tests sérologiques, ce qu'il va falloir avoir le plus rapidement possible. Quant aux enfants, rien n'est garanti. Il n'est pas certain que les enfants reprendront l'école avant le mois de septembre. Là, je vous donne une information. Donc, prenez-la avec des pincettes, mais la réflexion sur le fait que les enfants reprennent l'école, que ce soit le 4 mai ou début juin, elle n'est absolument pas certaine. Il y a à l'heure actuelle une proposition pour dire que le freinage de l'épidémie se passe aussi par la fermeture des écoles et des collèges et des lycées, et il n'est pas impossible que les écoles, les collèges et les lycées soient fermés jusqu'en septembre. C'est une hypothèse de travail pour le moment. Elle a des chances de se vérifier. Ça permettrait peut-être d'avoir un déconfinement vers les adultes beaucoup plus rapide que ça. Ça posera bien évidemment d'énormes problèmes techniques. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça sera un déconfinement progressif, ça je vous le garantis, qui sera localisé, ça je vous le garantis, pour les enfants. A priori, c'est une information que j'ai. Il n'y a rien de garanti sur le fait que les enfants puissent reprendre l'école avant le mois de septembre de l'année prochaine. Voilà. Est-ce qu'on partira en vacances? Oui, les vacances sont maintenues, c'est-à-dire juillet-août, en tout cas pour les gamins, c'est maintenu. Il y a eu un poisson d'avril qui disait que les enfants allaient travailler jusqu'au 15 juillet. C'était faux. Donc, c'était un petit poisson d'avril. Voilà tout ce que j'avais à vous raconter. Maintenant, je compte sur vos questions si j'ai oublié quelque chose pour le dire. Sur le plan de l'alimentation, il y a des petites pénuries à droite à gauche, il y a un peu de farine, un peu d'œufs, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de vraie pénurie. Donc, tout le monde arrive à s'alimenter à peu près correctement. La problématique des courses, elle se règle progressivement. Effectivement, les livraisons sont saturées, donc il faut aller soit au drive, soit dans les magasins et se faire livrer. On a une incertitude sur la durée de vie du virus, sur les cartons, mais j'ai vu que certaines grandes surfaces, en particulier le Monoprix où je vais là pour faire les courses, ils ont désinfecté tous les sols, ils désinfectent les caddies. Et la dernière fois, je suis rentré, je fais une erreur, je suis rentré avec mon propre caddie. Bon, ça va bien parce que moi, je suis hyper précautionneux, mais c'était pas bien, c'était pas ce qu'il fallait faire. Quand on reçoit les courses, nous ici, pour vous dire ce que je fais moi, ça n'a pas plus de valeur que ce qui est dit, hein, mais nous, on laisse les courses à l'air pendant minimum 24 heures. Voilà, et ensuite, on enlève les emballages. Par exemple, j'ai acheté du Coca Zéro. Et j'ai enlevé le carton de Coca Zéro. J'ai sorti les boîtes. Il est resté 24 heures à l'extérieur. J'ai jeté le carton et je me suis désinfecté les mains à l'eau et au savon parce que gel hydroalcoolique à la maison, ça sert pas à grand-chose. Mais sauf que quand je me lave les mains, je vous l'ai déjà expliqué, c'est un lavage qui doit être long. Nous, on a l'habitude parce que ce sont des lavages chirurgicaux quand on est en chirurgie ou quand on est en réa. On prend une brosse, on se lave les mains, même si on met des gants, on prend une brosse, on se brosse les mains soigneusement, on brosse sous les ongles, etc. Bon, il suffit de faire la même chose à la maison. Donc, on laisse les courses à l'extérieur, on enlève les emballages, on les met dans une poubelle, on ferme la poubelle éventuellement si on est réglo, et ensuite, on va se laver les mains précautionneusement. Par l'alimentation, il n'y a aucune preuve que ça se conduise par l'alimentation. Quant aux chats, il y a eu un article sur les chats. Oui, les animaux peuvent, on peut retrouver du Covid-19 chez les animaux. Et apparemment, chez les chats se le passent d'un chat à l'autre, mais eux, ils n'en sont pas victimes. Ça veut dire que le chat, bah, il a le Covid-19 et puis c'est tout, mais il ne le transmet pas à l'homme. Donc, vous pouvez continuer à caresser vos animaux. Vous pouvez continuer à garder chez vous. Ils peuvent avoir du Covid-19 sur vous, mais ils ne le passent pas à l'homme. Enfin, il n'y a pas de contamination interhumaine, donc ça va, il n'y a pas de souci à avoir. C'était les choses essentielles que j'avais à vous raconter. Et maintenant, je suis à vous pour répondre à vos questions. Donc, sur le plan alimentaire, je finis en vous disant que au début du confinement, les gens ont vachement cuisiné, grossi, pris du poids, etc. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a une reprise en main qui se fait. La reprise en main, c'est-à-dire que finalement personne n'a envie de grossir, et comme on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de pénurie alimentaire et comme on s'est bien fait plaisir en mangeant des bons plats cuisinés le midi et le soir, je crois qu'il y a un moment où ça s'arrête, et la plupart d'entre vous, en tout cas les abonnés de Savoir Maigrir, elles ont compris et elles ont redémarré. J'en ai certains qui m'écrivent et qui me disent que ça se passe bien. Donc, je vous dis quand même, je vous remercie pour tous les messages d'encouragement que vous me faites. Je vous remercie aussi de me dire de faire attention à moi et de pas m'épuiser. Mais tranquillisez-vous, on a cette notion-là maintenant tous du fait qu'on doit travailler, mais qu'en fait, il faut qu'on ait des phases de repos histoire d'être efficace, parce qu'un médecin qui est fatigué, c'est un médecin qui manque de réflexes. Donc, en tout cas, vraiment, ça me touche beaucoup l'attention que vous me portez. C'est vachement sympa et je suis très sensible. Donc, voilà qui m'incite à continuer avec vous. Donc, maintenant, en piste pour répondre à vos questions, je vais commencer par Facebook comme à l'accoutumée. Je vois que vous m'appelez de partout, de Haute-Savoie. Aujourd'hui, vous êtes là à l'heure actuelle en live, ici 1550 sur Facebook. Et ici, je vois que vous êtes 145 à rester, mais je sais qu'il y en a beaucoup plus que ça. Donc, c'est voilà en quoi c'est utile ce que je fais. Demain matin, j'irai sur CNews chez Morandini, comme à l'accoutumée, de 10h30 à midi, donc sur CNews, pour donner les infos que je dois donner et puis réagir à tout ce à quoi on doit réagir, et notamment l'affaire du déconfinement, qui me paraît être l'affaire la plus sérieuse à l'heure actuelle. Notre Premier ministre est très fatigué à l'heure actuelle et je voudrais saluer leurs efforts. Je trouve que dans le contexte, ils ont les mêmes problèmes que tous les autres pays. Tout le monde est en pénurie de masques, de blouses, de calottes, de médicaments, de respirateurs, etc. Et je trouve que même s'il y a eu un retard à l'allumage, depuis quelque temps, ils sont ultra performants. Les masques arrivent, j'espère qu'il y en aura pour toute la population. Ils ont fait fabriquer les masques alternatifs. Ils gèrent de très près les entrées en réanimation. Ça a l'air de tenir les entrées en réanimation. Donc voilà, faut penser à eux, faut pas que les critiquer, faut se dire qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont tous confinés, je le sais, parce que certains d'entre eux sont mes copains. Notre Premier ministre est tout seul à Matignon avec quelques personnes et très peu, et sa famille n'est pas avec lui, il est tout seul et donc c'est dur. Les autres ministres, pareil, pour la plupart d'entre eux, Darmanin, pareil, est enfermé à Bercy, tout seul, il travaille 17 heures par jour parce que lui, son problème, c'est comment faire redémarrer l'économie. Et moi, je trouve que plutôt que critiquer, faut leur dire quand même merci. Il y a toujours des gens qui disent, il y a cas, il faut con. Pour l'instant, ils font le boulot. Sincèrement, ils font le boulot. Hein. Bonjour docteur. Alors, on commence. 100% foot. Salut. Bonjour docteur. Question hors coronavirus. J'ai 14 ans. Je pèse 61 kilos et mesure 1m74. Pour toi, niveau poids, je suis bien comparé à ma taille et l'âge. Alors, oui, parce que quand on est jeune comme toi, à 14 ans, l'avenir ne fait que, là, il y aura plein de gens qui vont te le confirmer, ne fait qu'aller vers la direction de la prise de poids. Donc, sois efficace, fais de la gym, essaye de manger à ta faim, simplement, et tu verras que ton poids est plus que correct. Si tu montes un peu plus qu'à 66, 67, ça sera mieux. Mais ne le fais pas en te provoquant, c'est-à-dire ça ne sert à rien. Laisse-le arriver tout seul. Bonjour de Perpignan, bonjour de Marseille. Marseille, faites attention. J'ai la notion du fait que malgré les traitements de Didier Raoult, l'épidémie progresse à grande allure sur Marseille. Donc, faites très attention à Marseille, même si vous avez des belles balades à faire, ne le faites pas à l'heure actuelle. Merci Davigno, c'est gentil. C'est pour ça que je vous dis, les applaudissements à 20h, ça vous semble pas grand-chose, mais je peux vous dire qu'à l'hôpital, tout le monde les attend, hein. tout le monde les attend. Alors, Pompidou, c'est un peu particulier parce que l'hôpital est vraiment dans un îlot. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments autour, mais mes copains qui sont à Saint-Antoine, à l'Hôtel Dieu, etc. En fait, de temps en temps, à 8 heures, ceux qui sont en train de bosser, ils se mettent dehors pour entendre les applaudissements. Quelque part, ça leur fait chaud au cœur et c'est une forme de reconnaissance. Bon, vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus, mais ça veut simplement dire que vous êtes sensible au fait qu'il y a des mecs qui se défoncent à l'heure actuelle. Les soignants vont finir obèses, ouais, ouais, vu le nombre de cookies et de 4 quarts qui arrivent, c'est une horreur, quoi. Alors, Dames Boyot, depuis 2-3 semaines, j'ai des symptômes asthmatiques, tout simplement du mal à respirer. Ça se produit 2-3 fois par jour et ça se passe en position assise. Puis-je consulter pour ça en téléconsultation? Absolument, bien sûr. Tu peux consulter ou en téléconsultation ou par téléphone. Ton médecin, c'est autorisé maintenant. Il faut que tu aies de la ventoline à domicile et si tu es asthmatique habituel, tu peux lui demander à utiliser les nébulisa à base de corticothérapie. En fait, pourquoi? Parce que notamment, il y a un médicament qui s'appelle Relvar. Je vais te le noter. Tu le liras. Ça s'appelle Relvar. Alors, c'est très faiblement dosé. C'est à 0,92 microgrammes de cortisone. Ça t'aidera à pas avoir ce genre de choses. N'oubliez pas qu'en ce moment, les asthmatiques auront du mal à respirer parce que les pollens arrivent. Oui, Dames Boyot, je te conseille de consulter ton généraliste. Hein. Salut les Auvergnats, Allier Puy de Dôme. Ça fait tellement plaisir. Frédéric Messori, faut-il rester chez moi? Ouais, vraiment, ça marche. Quand vous êtes chez vous, ça fait déjà 3 semaines. Pour ceux qui ont respecté le confinement depuis 3 semaines, franchement, en ce moment, vous êtes super protégés. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que vous l'ayez attrapé sans vous en rendre compte. Vous êtes immunisé. Dès qu'on aura les tests sérologiques, vous le saurez. Et si vous êtes immunisé, parce que le test sérologique va le dire, bah, vous vous promènerez dans la rue très, très détendu. Et éventuellement, vous mettrez un masque si vous êtes inquiet, mais vous risquerez plus rien. N'oubliez pas qu'il y a sûrement 2-3 millions de personnes qui l'ont eu et pour lesquelles il ne s'est rien passé. Hein. C'est assez cynique ce qu'il y a à dire, mais il fallait les personnes très âgées qui sont décédées, c'était des personnes qui étaient réellement en fin de vie. Donc, ça signifie quand même qu'il y avait des facteurs de risque. Quand je dis facteurs de risque, ça veut dire que même si vous voyez quelques jeunes qui arrivent dans les hôpitaux ou qui sont en réa, d'abord, ceux-là sortiront de réa, ils guériront. Et ensuite, souvent, certains d'entre eux avaient un facteur de risque. Le premier d'entre eux, c'est le tabac. Vraiment, ça faut faire attention. Pourquoi? Parce que le tabac est une inflammation. Et si, quand vous développez le Covid, votre immunité développe une méga inflammation d'un poumon sur un poumon inflammé, c'est une galère. Le deuxième facteur de risque, c'est les diabètes non contrôlés, notamment les diabètes de type 1. Et le troisième facteur de risque qui est méga, méga important, c'est l'hypertension artérielle. Donc, tous ceux qui ont un traitement anti-hypertension artérielle, prenez-le. Prenez-le, hein. C'est bonjour du Gabon en Afrique. Bah oui, Wilma, bah tu me donneras des nouvelles du Gabon. On ne sait pas tout ce qui se passe dans les pays étrangers, hein. Alors, Rima, toujours problème de poids, effectivement, en galère. Ouais, je sais, voilà. Rachel, tu n'oubliais pas les personnes qui nettoient les hôpitaux. Non, je veux dire, Rachel, effectivement, c'est tout le personnel qui travaille à l'hôpital. On honore souvent que les médecins parce qu'ils sont au contact de la mort, mais s'il n'y avait pas des gens pour nettoyer les sols, des brancardiers pour transporter les malades, hein, l'hôpital est paralysé. Hein, donc, c'est tout le monde qui est responsable de ça. Et bonjour du Cantal aussi. C'est génial que vous soyez de tous les coins de la France. Alors, une réflexion sympa de Luc. Bonjour mon brave docteur, bien là. Je viens de sonner à ma porte et ça m'a fait un bien fou. Voilà un truc pour le moral. Ben, c'est la même chose que les apéros en Zoom. Je trouve ça formidable. Et je viens de voir… Il y a un hôpital en Israël où tous les soignants sont sortis et pour les gens sont enfermés dans leur chambre, ils ont fait une chanson pour tous les soignants. J'ai vu ça sur, vous savez, toutes ces petites vidéos qu'on reçoit. C'est trop sympathique. Il ne faut pas perdre le moral en ce moment. Il faut dire que c'est une période. Et pendant cette période, ce qui est assez curieux, ce que je suis en train d'observer, c'est le nombre d'éléments positifs que les gens racontent. Ça veut dire, il y en a certains qui disent « ça m'a fait un arrêt dans ma vie ». C'est j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de faire des choses, voilà. Corinne, qu'est-ce que tu nous dis? Il y a même des gens qui pensent que c'est les personnes de l'Est qui ont donné le virus à toute la France. Alors, ce qui s'est passé dans l'Est, ça a été cette réunion évangéliste. Alors, effectivement, apparemment, les 2000 personnes qui étaient là, sur les 2000 personnes, il y en a 3/4 qui l'ont attrapé et qui l'ont diffusé. Est-ce que c'est de leur faute? Non, personne ne pouvait prévoir ça, évidemment, hein. Question pour le menu confinement. Je t'ai loupé. Je travaille pour la santé de la France. Je cherche la question pour le confinement. Zut, je l'ai loupé. Bon, je vais la retrouver. Hein. Alors, bon, j'en prends d'autres. Hein. 100% foot, docteur. Je vais quelque chose avant, quand j'étais en primaire, j'étais en surpoids. Et là, je suis un peu maigre. Et de plus, pour ne pas grossir, je suis beaucoup trop à regarder mes calories du jour. Non, c'est pas normal. Ça, c'est une erreur de ta part de faire ça. Sur le menu confinement, j'ai perdu la question. Bon, tant pis. Écoutez, je continue. Hein. Marie-Vonne, bonsoir de Bourgogne. Je suis allergique au paracétamol. Quand ben, tu le prends pas, tu n'as pas d'autre choix. Hein. Tes enfants applaudissent aussi, Marie-Clotilde. Que va faire le gouvernement avec l'argent des amendes que ceux qui respectent pas? Écoutez, franchement, il va le mettre dans les caisses de l'État. Hein. L'idée de le donner aux soignants, c'est une idée généreuse, mais ça marche pas comme ça. Il faut le mettre dans les comptes de l'État parce que ça va être une catastrophe. Quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Ramadan, oui, c'est la vie, le fromage est en Auvergne et on a le choix. Ok. Moi, j'aime bien les recettes de Cyril Lignac. Ben, oui, les recettes de Cyril sont plutôt bien. Parce qu'en fait, il n'a pas fait des recettes de grand cuistot. J'ai vu la dernière fois qu'il a fait des coquillettes au jambon. Ben ouais, en ce moment, on a envie de faire un peu de cuisine, mais pas forcément de la cuisine trop compliquée. Bonjour docteur, Nadia, depuis le 24 février, je suis confinée vu que j'ai eu un cancer au RL il y a un an. J'ai peur et cela commence à me peser moralement. Alors franchement, si ce cancer au RL, tu l'as eu il y a un an, te prends pas la tête, t'es pas plus à risque que quelqu'un d'autre. Le cancer en phase de développement, il est forcément, il épuise l'immunité. Un an après, t'as une immunité normale. Hein. Suis épuisé, douleur dans la poitrine, essoufflé, tout, suis à Nice, beaucoup de pollen, c'est difficile ces pollen. Oui, mais Domili, tu prends des précautions. Ça veut dire, t'appelles ton médecin pour vérifier que ce soit pas un Covid. Si c'est un Covid, tu t'achètes ce petit appareil et tu surveilles ton oxymétrie. J'ai une amie qui est passée par la réanimation, elle revient de loin, mais tout va bien. Oui, oui, Joël, on ne parle pas assez de ces gens qui sortent de réa. Quand on vous dit il y a des jeunes qui sont arrivés, regardez bien, les jeunes, la plupart du temps, en sortent. Hein. Ça demande un peu moins longtemps que les autres. En fait, la phase dangereuse de la réanimation, elle est vers le cinquième jour. Vous les mettez en réanimation et au cinquième jour, entre le 5 et le 7, on regarde comment ça s'est passé. Quand ils passent le septième jour, après, en espérant qu'il n'y ait pas de surinfection, ça se passe bien. Alors, je dois faire une prise de sang bientôt. Est-ce que je peux demander à mon médecin une ordonnance pour faire ce test en même temps? Mireille, le test sérologique n'est pas encore mis. Enfin, on l'a pas encore. On a que, pour l'instant, des tests de dépistage. Mais les tests de dépistage, ça a de la valeur chez quelqu'un qui a des symptômes et qui hésite à penser si c'est un Covid ou pas un Covid. Hein. Ça fait 2 mois que j'ai arrêté de fumer. Merci docteur de m'avoir motivé. C'est une très bonne idée, ma petite Dorothée. Voilà, donc bien. Jos Galicie, info docteur, plus 700 grammes, cinquième semaine de STAB phase 1, mais pas la cata, c'est pas du tout la cata. J'attends mes courses avec le drive saturé 15 jours, donc je m'accommode avec ce qu'il y a dans les placards, avec toutes mes connaissances de savoir agréer, bien joué. Et quand vous avez un doute sur ce que vous êtes en train de faire, n'hésitez pas à contacter les diététiciennes, elles sont à votre disposition et je les remercie d'ailleurs d'assurer leur travail avec autant de constance puisqu'elles sont en télétravail. Christelle, j'ai un IMC de 34, est-ce que je suis à risque? T'es à risque modéré, Christelle. On pense que c'est supérieur à 35 où il y a un vrai risque. À 34, c'est un risque modéré. Si tu as l'occasion de baisser un peu ton poids en ce moment, ce serait pas une mauvaise chose quand même, ne serait-ce que pour faire de la prévention. Osu, Max, bisous du Nord, Doc, bravo, le Nord, l'Auvergne, le Mexique, etc. Vous êtes de partout. Alors, on a des nouvelles de La Réunion, 49 degrés à l'ombre. Nous, à La Réunion, on a 344 contaminés, 0 morts. C'est nous les plus résistants au virus. Bravo La Réunion, il faut que ça continue. Bonjour, je travaille pour la santé de la France. Je m'appelle Monsieur Bitation. Ce soir, le Premier ministre va parler car on pense que la fin du confinement sera début juin, le 7. Écoute, on n'a aucune garantie. Les renseignements que j'ai, c'est qu'il va plutôt le faire de façon très progressive. Et j'ai pas la notion qu'ils doivent parler ce soir. Pour moi, normalement, Edouard devrait parler samedi prochain. Mais on va voir. Peut-être que tu as raison. Je pense qu'il peut pas annoncer début juin comme ça brutalement. On est début avril. Il peut pas annoncer 2 mois de confinement. Ne serait-ce que stratégiquement, c'est impossible. Je pense que s'il annonce quelque chose, ça veut dire une prolongation du confinement jusqu'à la fin du mois d'avril. Après, on sait pas. Hein. Merci en tout cas de m'avoir donné ce renseignement. On va vérifier tout à l'heure si le Premier ministre parle. Moi, je te dis, je sais qu'il devrait refaire un bilan global samedi prochain. Maintenant, il peut avoir changé d'avis. Hein. C'est tout à fait possible. Est-ce que les maladies inflammatoires de peau sont facteurs de risque? Non, Ambilise, pas du tout. bonjour de Béziers et une pensée pour le Gabon, mais le pays de mon enfance, c'est trop mignon. Vaccination universelle pour l'immunité, évidemment. Le traitement de cette épidémie ne passera, je vous le dis, mais comme tous les virologues et tous les infectiologues et tous les immunologues, ne passera que par un traitement et le vaccin. Méthode de confinement, c'est des méthodes pour le moment pour limiter la casse et pour gérer les hospitalisations, mais c'est pas la technique de traitement. Alors, on arrive un petit peu sur vous, sur Instagram. Jean-Mi, j'aime bien le tableau derrière toi. Merci. C'est Olivier Rancinan qui le fait. C'est un photographe assez talentueux qui avait fait ce tableau en partie pour moi. Je vous le montre. C'est une espèce de scène avec que des obèses. Est-ce que le fait de retenir son souffle si on croise une personne contaminée qui nous postille dessus empêche d'être contaminé? Oui, a priori oui, mais évite de la croiser. Et puis une personne contaminée qui est dehors, c'est une personne qui devrait rester dedans et se signaler. C'est voilà. Et c'est ça quoi. Je veux dire, il y a aussi un acte de civisme à protéger. Hein, c'est donc les gens contaminés, ils devraient faire attention à nous quoi. On ne sait pas bien gérer une épidémie de cette nature, NINS COVID-19. Oui, on ne sait pas la gérer aujourd'hui, on fait avec des méthodes comme ça. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas grand-chose en France, on est en train de tâtonner. On sait que pour le moment, c'est une maladie qui est plus grave que ce qu'on a imaginé au début. Souvenez-vous de notre pauvre Michel Simès, qui pensait que c'était une grippette et qui, pour faire le kéké sur les plateaux de télévision, allait raconter ça partout. Il ne savait pas à l'époque. Il ne le savait pas. Il a parlé sans savoir, surtout. Voilà, ça, c'est le gros danger. Et progressivement, vous avez vu qu'on est passé par différents stades. Au début, la consigne, c'était « rassurons les gens parce que c'est pas grand-chose ». Je ne l'ai pas fait, d'ailleurs. Je disais qu'il fallait suivre les barrières de protection parce que je voyais bien qu'il y avait des zones d'incertitude. Puis ensuite, on a dit que les masques, ça servait à rien. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, il faille dire que les masques servent à quelque chose. Disons que ça serait une mesure supplémentaire à ajouter. Mais ce qui a été dit à l'époque n'était pas faux. Il y a même des virologues aujourd'hui qui disent que non, c'est une erreur. Ensuite, on n'a pas voulu confiner au début. Souvenez-vous de l'Angleterre, puis finalement, ils ont confiné. Ensuite, on a dit que les lits d'animation, on allait en manquer. Finalement, on n'en manquera pas. Je ne sais pas si vous avez vu. Ils vont arriver à ouvrir 10 000 lits dans les mois à venir. Et finalement, on va rester sur un plateau de 6 000 hospitalisations en réanimation parce qu'il y a des entrées et des sorties. Et le confinement a permis de gérer les choses. Donc, les choses ne sont pas si catastrophiques. Jonathan, êtes-vous pour ou contre les traitements de Dr Raoult? Alors, j'en ai parlé dans une émission de télé au cours de l'interview. J'ai dit, on ne peut pas dire que ça ne marche pas, mais personne d'entre nous ne peut dire que ça marche. Alors, si c'est donné avec précaution, ça veut dire sous surveillance médicale, avec un électrocardiogramme, chez des gens qui n'ont pas de contre-indication, on pourrait l'essayer, après tout, pourquoi pas. Est-ce que ça marche? Si ça marche, en tout cas, ça ne peut marcher qu'au début de l'infection. L'idée d'avoir donné à la fin de l'infection est un protocole compassionnel, c'est pour faire plaisir aux gens qui ont peur, mais ça ne marche que parce que ça diminue la charge virale. Et au bout de la maladie, quand vous arrivez vers 12e, 15e jour, il y a très peu de virus, il y a juste l'inflammation. Donc, est-ce que je suis pour ou contre? Perso, je ne le prendrai pas en tout cas. Comment faire comprendre aux gens qu'il faut rester chez eux? Voilà, c'est tout le problème à l'heure actuelle. Bonsoir docteur, j'ai l'impression qu'en Suisse, les gens prennent moins au sérieux qu'en France, je ne sais pas. Pourtant, j'ai lu que les mesures en Suisse étaient à peu près aussi dures qu'en France, mais je ne sais pas, c'est possible. Et peut-être que comme ils ont beaucoup de coffres-forts, ils pensent que ça marche. Bonsoir docteur, le masque en tissu fait avec un foulard est-il efficace? C'est une barrière de protection, elle n'est pas aussi efficace qu'un masque chirurgical ou qu'un FFP2. D'ailleurs, je dois vous le dire, quand vous sortez à l'extérieur de la rue, les masques FFP2 ne servent à rien, mais vraiment à rien. Ça ne sert que pour les soignants à l'hôpital parce qu'ils s'approchent de la personne qui est malade. Donc, ils reçoivent à coup sûr près des voies aériennes du virus. Donc, mais dans la rue, les masques FFP2, c'est un scandale. C'est vraiment non. Mais le foulard, ça peut marcher. Vous pouvez faire vos masques vous-même. Ça veut dire vous prenez deux feuilles de papier, vous mettez au milieu par exemple une feuille de plastique, vous l'accrochez, c'est une barrière, mettez-vous ça dans la tête, c'est une barrière de protection, c'est-à-dire qu'en fait vous essayez de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui arrête l'éventualité d'un virus qui arrive jusqu'à votre bouche, donc tout peut fonctionner. Des petits cours de français entre vous. Oh non, vous n'avez pas de la chance de m'avoir. Disons que j'ai la chance d'être bien renseigné sur le sujet. Alors, il y a des gens qui me disent que j'ai l'air fatigué. Ouais, je ne suis pas si fatigué que ça, quoi. Ça va. On vous a entendu. Avez-vous entendu parler d'un patch qui pourrait nous vacciner? On en parle beaucoup en Italie. Non, je n'ai pas entendu parler. Méfiez-vous par contre, je le répète encore une fois, de tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur le web, de toutes les arnaques possibles et imaginables, comme les gens qui vendent des produits, des suppléments alimentaires qui sont censés vous protéger, c'est n'importe quoi. Donc, n'achetez pas en ce moment sur les appels téléphoniques ou sur le web. Stéphanie Mongol, du poulet au curare. Non, c'est du poulet au curry, Jonathan. Merci, incroyable tous ces manques. Non, pour l'instant, j'ai pas de. Il faut pas que je meure du coro. Bah non, écoutez, je fais tous les efforts possibles pour pas l'attraper. Hein. J'ai un visage fatigué. Bah ouais, c'est une période quand même compliquée. Il faut tout faire en même temps. Donc, avec un niveau de tension qui est très élevé. C'est surtout le niveau de stress hein, qui est très élevé. C'est pas tellement la fatigue professionnelle. La fatigue professionnelle, on a tous l'habitude. C'est le niveau de stress. Je vois, par exemple, des copains dans des petits hôpitaux où il y avait habituellement 6-7 lits de réa, où ils sont à 15 lits de réa. Et ils avaient l'habitude, quand ils avaient 6-7 lits de réa, d'avoir un décès par mois. Voilà, parce qu'ils réanimaient tout le monde. Aujourd'hui, quand ils enchaînent 2 décès par semaine, ça fout un coup au moral, quoi. Je veux dire, vous savez que c'est un métier, la médecine est un métier d'empathie. Ça veut dire, on aime les gens, donc ça fait de la peine. Je suis pas invincible, Dragnoc. Je fais attention, c'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est que je respecte vraiment les barrières de protection. Même quand je vais au supermarché pour faire les courses, je suis à distance des gens. J'ai un masque chirurgical. Les FFP2, je les garde que pour les autres endroits. Donc, le masque chirurgical me protège. Je fais mes courses et je mets à distance des gens. Donc, tout va bien. Et puis, ce que je veux dire, j'ai mes petits enfants et je les vois pas pour le moment. Hein. Ça vaut mieux faire ça et être tranquille après, bien sûr. Bonsoir. Quand on voit les transports, etc., c'est assez prudent. Quand on voit les transports et foule dans les écoles, etc., c'est assez prudent de fermer les classes. Ouais, c'est possible. Oh mince, franchement, la classe à mes élèves comme ça, c'est nul. Et les aéroports, bah, les aéroports, le problème des aéroports à l'heure actuelle, c'est qu'on sait pas où aller. Ça veut dire, on sait pas où aller. Ça veut dire que même si vous avez envie de partir à l'étranger, il y a plein de pays étrangers qui sont fermés. Puis il y a des pays qui sont moins sûrs que d'autres. Il y a des pays, par exemple, je suis en contact avec mes copains aux Philippines, ils sont vraiment vachement confinés. Hein. L'app Glovo livre rapidement Carrefour ou autre sur Paris. Ouais, bah donne-nous le truc parce qu'il faut qu'ils aillent chercher au drive tes courses et ensuite qu'ils te les ramènent. Et les livreurs, je trouve qu'on n'en parle pas assez, ils sont vachement sympas de continuer leur boulot. Hein. Livraison sous 2 semaines avec des produits en rupture, même les drives sont saturés, bah, bien sûr. Moi, les achats, je les désinfecte au Sanitol chaque article. Bah, écoute, oui, si tu veux. Doit-on craindre un retour du virus à l'hiver prochain? Probablement que oui. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Bon, docteur, ma fille qui est caissière commence à tousser, mais pas de fièvre. Comment gérer? Tu la sors de la caisse. Voilà, tu fais suspicion de Covid. Comme il y a une suspicion de Covid, il y a sûrement un laboratoire dans le coin qui est capable. Les tests de dépistage, il y en a. Donc, tu vas dans un laboratoire pour avoir un test de dépistage. Si elle a le Covid, tu la sors du supermarché. Voilà, tout de suite. C'est parce que les symptômes du Covid sont extrêmement larges. Il y a la toux, il y a la fièvre, il y a les douleurs, il y a l'essoufflement, il y a le rhume. Donc, dès que vous avez un petit symptôme, si vous avez un laboratoire, et il y en a plein à côté de chez vous qui font des tests de dépistage, et si vous avez le moindre symptôme, vous y allez. Et après, bah, soit vous demandez à ce qu'on vous teste pour vérifier votre saturation en oxygène si vous commencez à mal respirer, soit vous vous mettez en confinement de toute façon. Hein. Bonjour, hors sujet. Je viens de lire -125. J'ai beaucoup apprécié votre partie. Merci. -125, c'est le livre que j'ai écrit avec Guy Carlier. Guy Carlier qui maintenant est à -165 kilos. Donc, d'ailleurs, il faut que j'appelle pour prendre de ces nouvelles. Vous me dites que j'ai l'air fatigué, je ne m'en rends pas compte. Donc, pas de motivation pour perdre le poids, pas de souci, ne prends pas de poids pour le moment, je n'ai pas arrêté de le répéter, puis on verra plus tard. Bonsoir, docteur, merci pour votre présence. OK, c'est gentil de penser à moi. Une question par rapport aux tests de vaccins en Afrique. Je crois qu'ils ont été très maladroits, ceux qui ont raconté ça. Je ne crois pas qu'ils l'aient raconté en disant qu'ils voulaient servir des Africains comme cobayes. C'est ce qu'on a compris quand ils l'ont dit, mais je pense qu'ils voulaient dire que justement, les Africains méritaient d'avoir les tests et d'avoir des vaccins. Donc, je crois que c'est surtout ça qu'ils ont voulu dire. Mais ils l'ont dit de façon tellement maladroite qu'on avait le sentiment que les Africains étaient une sous-population, puis qu'allons-y, quoi, on les teste. Mais je pense qu'ils étaient pas, c'était pas leur intention, il me semble. Hein, j'en sais rien. Il faudra qu'on verra. On verra ce qu'ils diront. Hein. Vitamine C pour le Premier ministre. Le mec, il est honnêtement notre Premier ministre. Il est hors sol hein, en ce moment. Il tient sur sa volonté. Vraiment, hein, sur sa volonté, le mec, il est partout en même temps. L'économie, les masques, les trucs, les bidules. Donc, le type, bravo, j'espère qu'on lui reconnaîtra ça. Et je trouve vachement injuste ces mesures. C'est pas que ce soit mon grand copain, je le connais, mais c'est pas mon grand copain. Mais je trouve ça très, très injuste au moment, en pleine crise, d'aller dire, on va demander une commission d'enquête pour vérifier si vous avez bien fait les choses. Honnêtement, il suffit de comparer la France aux autres pays. On met à part la Chine et la Corée. La Chine, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Et la Corée, ils ont l'habitude de gérer ça. Mais dans les autres pays, ils ont exactement les mêmes problèmes que nous, en pire. Hein, regardez l'Italie, regardez l'Espagne, regardez l'Angleterre, regardez les États-Unis. Alors, les États-Unis, ils ont dit, c'est clair, hein, ils ont dit économie avant tout, on va encaisser les morts et puis basta. On verra qui est mort et puis c'est tout, basta. Donc, vous voyez, ce n'est pas la stratégie qui est menée ici. Hein. Et quant à l'histoire des patients de 80 ans qui ne sont pas pris en réanimation, ce n'est pas qu'ils ne sont pas pris parce qu'ils ne sont pas aimés. C'est simplement que la réanimation chez les personnes de 80 ans tue les gens de personnes de plus de 80 ans. C'est-à-dire, vous mettez une personne de plus de 80 ans en réanimation, vous avez des chances de la tuer à cause de la réanimation. Pourquoi ? Parce que quand vous les laissez allonger pendant 20 jours, vous les ankylosez, donc ils ne remarcheront plus comme avant, parce que leur capacité à choper des surinfections est beaucoup plus grande que les autres. C'est pour ça qu'il vaut mieux les laisser tenter leur chance dans un lit d'hospitalisation en sursaturant le masque en oxygène, plutôt qu'aller les balancer en réa, où là, vous êtes à peu près sûr que vous les tuerez. D'ailleurs, la statistique officielle, c'est ça, c'est si vous les basculez en réa et si vous les gardez 20 jours, bien sûr qu'il y a des exemples où ça marche, où on arrive à récupérer, mais la statistique est terrible. Ça veut dire ils encaissent entre 90 et 100% de mortalité. Donc, il vaut mieux les placer en hospitalisation, s'occuper d'eux, leur mettre les perfusions comme il faut mettre les perfusions, les faire respirer avec un masque très fort débit d'oxygène. Ils ont plus de chances de guérir après 80 ans sans être en réa qu'en étant en réa. C'est ça qui est dingue. Et on commence à le savoir, ça. Voilà. Pour les esthéticiennes, ben oui, forcément, tout le monde devrait avoir des masques. Dès que vous approchez quelqu'un et que vous travaillez en proximité de cette personne, effectivement, il faudra avoir des masques. Perdu 6 kilos avec le coronavirus. Bon, voilà, il y a un effet positif et un effet négatif. Une question, avez-vous des infos si les couples en PMA peuvent espérer une reprise des protocoles ? En principe, c'est 28 lignes, rien ne s'arrête. Les soins médicaux, je vous le répète, même si les médecins généralistes et les médecins voient moins de patients à l'heure actuelle, les soins médicaux ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire, si vous avez un infarctus, vous serez hospitalisé et vous serez traité pour un infarctus. Et ben, c'est la même chose. Les protocoles de PMA, t'appelles ton médecin et tu lui en parles. Des conseils pour augmenter sa testostérone, non, il n'y a pas grand-chose, Luc Simon. C'est tout ce qu'on va te raconter, c'est des fakes. Hein. Quand on met un masque, il est impec pendant combien de temps ? Si vous êtes, si vous baladez juste dans la rue, vous pouvez le garder la journée. Si vous travaillez au contact des gens, il faut le changer deux fois au moins dans la journée. Hein. Docteur, reperdu 900 grammes en 10 jours, enfin après une reprise de 2 kilos. Bravo Nathalie, il ne faut pas arrêter. Est-ce que c'est bien de prendre de l'eau avec du son de blé ? Je prends oui, si tu veux, c'est juste pour te couper l'appétit. Hein. Quels aliments servent à apaiser le reflux gastro-intestinal ? Il faut manger en petite quantité, fractionné. J'ai un truc que je donne à mes patients, mais il faut que tu puisses trouver ça, c'est d'acheter de la poudre de caroube. La poudre de caroube, tu peux peut-être retrouver en pharmacie ou dans les supermarchés, et ça permet d'épaissir la nourriture, donc ça limite le reflux. Alors, je reviens sur vous un peu Facebook. Hein. Alors, je ne trouve pas les menus confinement dans ton site. Demande à ta diététicienne, elle va te les envoyer directement, s'il te plaît. Bonjour, je suis médecin d'Alger. Bonjour, Iba Belimi, ma consoeur. Je suis réquisitionné pour soigner les patients Covid. Qu'est-ce que vous me conseillez pour mon alimentation ? J'aurais peut-être plus le temps pour déjeuner. Écoute, j'ai donné les conseils, Iba. Les aliments qui augmentent l'immunité, c'est l'ail, les champignons, les crucifères, le jus de raisin, le thé vert. Donc voilà, et le piment. Donc, moi, je me ferai à ta place des sandwichs avec du thon, de l'huile d'olive, un peu de piment à l'intérieur. Si tu peux, tu rajoutes des champignons ou de l'ail. Voilà, je sais bien que c'est pas la recette idéale, Iba, mais tu fais comme nous tous, quoi. Ça veut dire, faut se démerder. Ça veut dire, bon, on n'a pas le temps de manger dans des assiettes le midi. Hein. C'est clair que tout le monde grignote à l'hôpital. On n'a pas le temps, quoi. Voilà. Et puis, ce n'est pas très grave. Bonjour, ma femme doit accoucher fin avril. Pensez-vous que je pourrais assister à l'accouchement et faire visite après à l'hôpital? Alors, accoucher, assister à l'accouchement, non, ce n'est pas certain. Ça dépend des hôpitaux. La voir après à l'hôpital, oui, tu pourras la voir, Thomas. Dans la Manche, on n'a pas beaucoup de cas. Continuez comme ça. Du coup, pensez-vous qu'on sera déconfiné avant? C'est possible à condition que tous les gens ne se précipitent pas chez toi. Ceux qui s'en sortent, est-ce par la suite danser s'ils ont un problème du fait que les poumons ont eu quelque chose? Écoute, on ne connaît pas encore les séquelles pulmonaires. Il y en a, mais on n'est pas persuadé qu'elles vont durer longtemps. Donc, il y aura une période de réadaptation. Tu ne trouves pas le menu confinement dans les fiches pratiques, Alice, demande-les à ta diététicienne, envoie tout de suite un message par la messagerie diététique, elle va te les envoyer ou elle va te signaler comment les trouver. Je maigris mais je ne grossis pas sans faire au cordeau le programme, alors on reprendra ça très, très sérieusement lors de la reprise de poids. Ok Sylvie, avec grand plaisir. Mince, ma fille accouche le 12 août, aujourd'hui on ne fait plus de pronostics, hein. On ne sait pas quand on sort, on ne sait pas quand on est déconfiné, on ne sait pas grand-chose. Hein. Alors, les conseils. Waouh, vous posez des questions, attends, la rigole. Hein. C'est, voilà. Bonjour. J'étais dans le bus, il y a une dame qui ne fait que se moucher. Elle était à 1m50. Pensez-vous que je risque d'être contaminé? Non, si tu étais à 1m50, ça va. Jos Galici, dans l'application, vous allez dans nutrition et tout en bas à droite. Alors, on te répond à la question. Tout en bas à droite, vous avez un dessin de maison et personnel et l'inscription menu confinement. Donc, tu vas dans l'application. Merci, Jos Galici. Hein. C'est, voilà. Coucou de 7 et coucou l'ami Béziers. Trop mignon. Bonsoir docteur, le citron et le kiwi est-il l'équivalent de l'organisme pour est-ce que ça apporte de la vitamine C? Oui, Tunisiana, et comme si tu viens de Tunisie, ben vas-y sur les poivrons, c'est ce qu'il y a de plus riche en vitamine C, mais effectivement dans le kiwi il y a beaucoup de vitamine C. Il est cas. Bonjour docteur, j'ai 10 kilos à perdre, je compte commencer un régime, est-ce que je prends rendez-vous dans votre cabinet ou prendre le programme directement? Écoute, commence par prendre le programme parce que pour l'instant le cabinet, je pense que je redémarre le 4 mai, mais comme il n'y a pas de certitude, abonne-toi au programme, quitte à l'annuler après, c'est aussi bien en ce moment. Je suis allergique au pollen et le médecin m'a prescrit du rhinoclénil, est-ce dangereux? Non, tu peux le prendre, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai 80 ans, c'est chaud. Écoute, ça veut rien dire, Sophia. Si tu respectes le confinement, tu risques rien. Voilà. C'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a à un moment donné, ce qui s'est passé avec les personnes âgées, c'est que elles n'ont pas saisi, elles n'ont pas pris au sérieux ou pas très bien compris ce qui se passait avec ce Covid-19. Donc, j'ai vu beaucoup de personnes âgées au début du confinement qui étaient dans les rues, qui se promenaient, qui achetaient leur pain, en fait, comme si la vie n'avait pas changé. Je crois que maintenant, tout le monde est prévenu. Voilà. Savez-vous comment les ordonnances sont faites en téléconsultation? Oui, ils ont un programme spécial. Les médecins qui sont en téléconsultation, ils ont un programme spécial pour envoyer une ordonnance sécurisée. Alors, conseil d'alimentation au diagnostic d'atrophie olivo-ponto-cérébelleuse? Non, il n'y a pas grand-chose, Juan Luis, c'est une alimentation équilibrée, il n'y a pas de miracle là-dedans. Bonjour docteur et heureuse que vous passiez du temps pour nous. J'allaite mon bébé 3 semaines. Pensez-vous que l'allaitement protège mon bébé du coronavirus? Oui, oui, absolument. Ton bébé est protégé. C'est même lui qui te protège plutôt que toi qui le protège. La vitamine C des infos. Bah, la vitamine C, ça contribue à améliorer l'immunité. C'est clair que ça améliore l'immunité. Donc, c'est vrai qu'il y a des médecins aux États-Unis qui font des perfusions de vitamine C à très haute dose, 2 grammes en perfusion intraveineuse. Donc oui, c'est vrai. Est-ce que les comprimés de vitamine C améliorent l'immunité? Je vous le répète, tout ce qui ne fait pas de mal peut faire du bien, donc on peut y aller. Et si on prescrivait aux personnes âgées le protocole de M. Raoult? Alors, tu ne peux pas prescrire un médicament s'il n'y a rien. Donc, si tu as une personne âgée, que tu la suspectes d'avoir le Covid, oui, ça vaudrait peut-être le coup de lui donner ce traitement, mais c'est vraiment fait au hasard. Pour l'instant, très franchement, je ne veux pas dévoiler ce qui va être dévoilé dans quelques temps, mais sur les petits résultats qu'on a, on n'a pas le sentiment que ça a bouleversé l'ordre du monde, ce traitement. C'est dommage, c'est dommage. Peut-être que ça le bouleverse pour certains et pas pour tout le monde. Hein. C'est dommage. Je suis allergique au pollen. Non, ça y est, j'ai répondu à ça. Voilà. Charles Adam, les amants sont tous testés, mais pas nous. Alors, franchement, le test, il est intéressant pour savoir si tu l'as, mais savoir que tu l'as pas, c'est absolument pas rassurant. Je vous le répète, comme je vous l'ai déjà dit, il y a énormément de faux négatifs. Ce que j'appelle les faux négatifs, c'est on vous dit que votre test est négatif, mais en fait, vous l'avez. Donc, c'est pas bien du tout, ça. Hein. Voilà, 49 degrés à l'ombre, perso tous les jours des pommes, si tu veux, Triton. Coucou, je dois faire un test au laboratoire pour voir si j'ai encore les Helicobacter pylori. Est-ce que je cours un risque en n'y allant pas? Non, tu cours pas de risque parce que si tu l'as pas, tu l'as pas. Et si tu l'as, il sera toujours temps de le savoir par la suite. Donc, voilà. Il faut manger tout ce qui est chaud, épicé, tisane, non, FFIU. Ça fait partie de ces rumeurs qui circulent, qui n'ont pas de valeur. Tu peux les manger, ça ne nous dérange pas, mais en tout cas, ça n'aura pas d'action sur le Covid-19. Bonjour docteur, j'ai 17 ans et lors de ce confinement, je ne voudrais pas grossir, je pèse 48 kilos pour 1m75. Pensez-vous que 2000 calories suffisent? Oui, 2000 calories, c'est largement suffisant. Tu as un poids qui est quand même très bas, 48 kilos pour 1m75, donc tu as de la marge, hein, c'est pas grave. 19h52, mes amis, préparez-vous pour clap, clap, clap. Moi, je vais vous laisser. Demain, mes amis abonnés de Savoir Maigrir, je vous retrouve dans cette consultation privée. Je vous retrouverai après avoir été à la télévision, donc de 10h30 à midi, je suis sur CNews où je vous donnerai d'autres informations en fonction de ce qu'on va me communiquer d'ici là. Et ensuite, je prendrai ma petite voiture et je regagnerai, je pense, mon domicile pour le moment. Je n'irai pas à l'hosto demain. Enfin, je n'irai pas en tout cas dans le matin et je serai avec vous en consultation private. De 13h15 à 14h. Pardonnez-moi si les horaires sont pas parfaits ces temps-ci. Tout est difficile. Pas la circulation, heureusement, mais tout est difficile, en tout cas, la gestion des coups de téléphone, etc. Donc, excusez-moi. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Passez du bon temps devant la télévision. Regardez comme moi la Casa del Papel si vous avez Netflix. Et sinon, on se retrouve mercredi à 19h pour notre nouveau live. J'espère que j'aurai des bonnes infos à vous donner. Portez-vous bien, restez chez vous. Et à bientôt. Salut tout le monde.